Lila Mokri, bonjour. Vous êtes responsable pédagogique et formatrice concernant le trouble du spectre autistique. Le terme spectre illustre que les symptômes récurrents peuvent varier considérablement. L'autisme est généralement diagnostiqué dans l'enfance et c'est bien auprès de ce jeune public que vous intervenez. Alors, quel est votre sentiment concernant le budget 2025 de l'éducation nationale qui prévoit 4000 postes d'enseignants en moins par rapport à 2024, principalement en maternelle et en élémentaire, mais compte en revanche assurer le financement de 2000 accompagnants d'élèves en situation de handicap supplémentaire.
J'ai envie de vous dire que je suis agréablement surprise parce qu'effectivement, les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont souvent les grands oubliés de l'éducation nationale. Et c'est encourageant pour tous ces autistes qui ont pour beaucoup des compétences scolaires.
Et selon vous, la traduction justement de la possible inclusion des enfants autistes dans des établissements scolaires en France?
Écoutez, effectivement, oui, j'ose y croire en fait, parce que je pense que pour avoir une société un peu plus inclusive, pour moi, il est plus que nécessaire aujourd'hui, d'une part, de sensibiliser, d'informer dans les écoles, car l'inclusion, j'ai envie de vous dire, qu'elle soit sociale, scolaire, c'est un effort démocratique, que toutes les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à la société et de bénéficier surtout au droit à la scolarisation, comme le stipule la loi de 2005. Cependant, il est toutefois encore difficile pour les personnes TSA de trouver sa place en inclusion scolaire, aussi bien auprès des élèves, des enseignants, ceci par manque de moyens humains et matériels. Si vous voulez, dans mon IME, nous avons la chance d'avoir deux enseignants spécialisés qui font un travail remarquable auprès de nos jeunes, mais c'est hélas pas suffisant parce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge tous les enfants.
Alors, Lila Mokri, quel a été votre parcours et pourquoi avez-vous été amenée à vous spécialiser dans l'autisme?
Écoutez, mon parcours est lié, il y a de cela une trentaine d'années à peu près, avec une rencontre improbable avec un jeune autiste pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur, dont je connaissais les parents et qui m'ont régulièrement sollicité pour les soutenir dans leur quotidien, pour les relayer un petit peu. Donc j'ai été aussitôt très curieuse d'en connaître davantage sur cet handicap, des formations possibles, et à la suite de ça, j'en ai fait ma spécialisation. Travailler auprès de personnes extraordinaires, et aujourd'hui, je ne vous cache pas que je suis toujours aussi passionnée et très engagée dans mon travail.
Des structures d'accueil et de soutien pour les enfants et les adultes autistes existent en France, même si on peut déplorer que comparativement à d'autres pays, nous ne soyons pas les meilleurs. Comment expliquer cette situation?
Effectivement, nous manquons cruellement de structures pour adultes en France, chose que je déplore hélas, car je pense à toutes les familles pour lesquelles le quotidien n'est pas simple, et de pouvoir bénéficier aussi de relais par des professionnels. La plupart du temps, ce sont des parents qui créent des associations dans lesquelles je travaille actuellement. Je pense que là, on fait un signal à l'État qui se penche un peu plus là-dessus pour envisager d'ouvrir davantage de structures pour toutes ces familles en difficulté.
Quel âge ont les enfants que vous suivez, sachant que les manifestations du trouble de développement évoluent en fonction de la croissance de l'enfant?
Eh bien, les enfants que nous accueillons sur IME ont entre 10 ans et 26 ans. Bien évidemment, normalement, l'accueil dans un IME est jusqu'à 18 ans, mais hélas, confronté à la même problématique, le manque de place, les parents peuvent demander une dérogation, si vous voulez, qui est un amendement Creton qui permet de maintenir l'accueil des jeunes devenus des jeunes adultes autistes en attendant de trouver des places dans les structures d'adultes. Mais hélas, la liste d'attente est interminable.
Votre patientèle est-elle paritaire? Autrement dit, y a-t-il autant de garçons que de filles ou constate-t-on des différences dans le développement cognitif et émotionnel?
Alors effectivement, oui, on retrouve cela dans les émotions, dans le développement. Effectivement, l'autisme touche plus les garçons que les filles. C'est 4 garçons pour une fille. Et puis, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes d'autisme, donc léger, moyen, à sévère.
Alors, vous heurtez à un certain nombre de difficultés et vous avez des défis à relever en raison des particularités des troubles du spectre de l'autisme. Comment parvenez-vous à adapter à chaque cas? Autrement dit, vos interventions font-elles appel à du sur-mesure et existe-t-il de réelles méthodes?
Absolument, on essaye de faire du sur-mesure pour tous les enfants que nous accueillons de manière individualisée. pour l'accompagnement de nos équipes, nous appliquons tout simplement les recommandations, les bonnes pratiques qui sont définies quand même par la Haute Autorité de Santé. Donc nous mettons en application bien évidemment des méthodes comportementalistes et éducatives qui sont l'ABA, donc qui est une analyse comportementale appliquée, qui fait partie des programmes des bonnes pratiques, ainsi que la méthode TIC, donc qui est la structuration de l'environnement familial et social de la personne autiste afin qu'elle puisse se repérer dans notre monde. Une autre méthode également, alors cela s'adresse pour les autistes non-verbaux, c'est la méthode PECS. Donc le PECS, c'est un système de communication par échange d'images qui leur permettent de communiquer également. Et également le MACATON, donc qui est une méthode qui est issue de la LSF, donc la langue des signes française, qui permet de communiquer par la gestuelle.
Une bonne communication et une coopération étroite entre vous et les parents est-elle indispensable ?
Absolument, j'ai envie de vous dire. La collaboration des parents est plus que nécessaire, surtout dans le développement de l'autonomie, de l'intégration sociale de la personne autiste, car l'implication parentale, pour moi, elle s'impose comme des facteurs clés de la réussite, d'un bon accompagnement. Ce sont des partenaires essentiels au quotidien.
Alors, Lila Mokri, vous vous déclarez ambassadrice de l'autisme. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer ?
Merci infiniment pour ce titre, j'en suis ravie. Écoutez, moi, ce que je souhaite faire passer, c'est qu'en termes d'inclusion pour les personnes autistes, et que la société puisse changer son regard sur l'autisme. Par de la sensibilisation, l'information et les rencontres. Venez à notre rencontre pour développer aussi davantage de partenariats. Car je pense à toutes les familles qui sont sans solution, des milliers d'enfants qui attendent une place en IME ou dans d'autres structures, par le manque d'AUSH également, où des enfants qui ont été affectés dans une école ordinaire ne peuvent pas être pris en charge par manque d'AUSH. J'ai envie de vous dire, qu'attendons-nous pour ouvrir davantage de structures dédiées, comme le propose l'association dans laquelle je travaille, AFG Autisme, avec des services et dispositifs. Cette association pour laquelle je travaille depuis de nombreuses années et qui répond spécifiquement à tous les besoins des autistes.
Eh bien,
voilà,
écoutez,
j'ai envie de transmettre ce message.
Eh bien écoutez, il reste à espérer que votre message d'ambassadrice de l'autisme soit écouté et entendu.
Je voudrais remercier toutes les familles pour leur confiance qu'ils nous donnent au quotidien et à mes collègues de terrain aussi qui font un très très beau travail.
Lila Mokri, merci beaucoup. Les messages sont passés.
Merci infiniment. À vous.